الحدث التاريخي.
باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار.
في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل ووحدته، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أن الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق.
دون بايترو.
D'accord.
Bonjour, nous retrouvons notre ami Jean-Claude Boucher pour parler évidemment de la Palestine et puis une information utile aux auditeurs qui auront remarqué que ces derniers temps nous n'avons pas consacré suffisamment de temps à la question palestinienne. Nous allons reprendre l'émission habituelle qui était diffusée sur Canal Sud. Ce sera deux fois par mois et ce sera le mercredi, le premier mercredi du mois et le deuxième mercredi du mois. Alors aujourd'hui donc avec nous Jean-Pierre Boucher qui nous a fait l'amitié de se mobiliser en quelque sorte. Nous n'avons pas eu assez de temps pour préparer cette reprise, mais en tous les cas nous allons aborder trois grands axes dans cette émission. Jean-Pierre nous apportera son éclairage sur ces différents axes. Dans le désordre, hein, on pourra l'aborder selon sa disposition. Le BDS, où en est cette opération BDS, peut-être revenir à une présentation basique pour ceux qui n'ont pas encore connu cette initiative qui aujourd'hui a réalisé un certain nombre d'étapes et d'ancrage. Oui.
Tu peux rappeler ce que veut dire BDS ?
Mais justement, je lui laisse la priorité pour la présentation, Philippe. D'accord. Donc, deuxième, c'est la grève de la faim des prisonniers palestiniens. Elle dure presque depuis 50 jours. Il n'y a pratiquement pas d'informations dans les grands médias, y compris dans le monde arabe. Hein. Il n'y a pas ce silence radio n'a pas lieu uniquement en Europe ou en France. Il existe aussi ce silence dans le monde arabe. Et puis, nous allons aborder, ce que certains appellent la réconciliation entre Hamas et Fatah, ou l'autorité palestinienne, parce qu'elle se résume surtout à l'autorité palestinienne, un nouveau gouvernement. Voilà les trois axes. Alors commençons par cette interrogation pertinente développée par Philippe. Que veut dire le BDS ?
Alors la question est d'autant plus judicieuse que nous étions à la fête de l'UMA ce week-end, où nous avons tenu une table BDS, et effectivement la plupart des personnes qui venaient à la fête de l'UMA ne connaissaient pas le sigle, ne savaient pas ce qu'était BDS, donc on a pu l'expliquer. Bon, BDS c'est ça veut dire boycott, désinvestissement, sanctions. D'accord. Et en fait, Majid, je ne qualifierais pas BDS d'opération.
C'est le mot que j'ai...
Il s'agit d'une campagne, et c'est une campagne stratégique. C'est-à-dire, c'est pas une campagne qui est amenée à se terminer d'ici 6 mois ou 1 an. Mais c'est vraiment une campagne stratégique pour l'avenir de la Palestine. Ça a été effectivement vu comme ça par ceux qui l'ont lancé, et c'est vu comme ça par tous ceux qui le développent maintenant dans 40 pays. Hein, donc c'est devenu une campagne internationale importante. Au départ, ça a été lancé par des Palestiniens appartenant à une série d'organisations de base, en particulier de la lutte contre le mur. Donc les campagnes contre le mur et toute une série d'organisations de base qui ont été en quelque sorte éduquées au début des années 2000 et en rapport avec des militants de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Mais en fait, tout est parti de là. Il y a eu une conférence qui s'est tenue à Bethléem début 2005 avec des militants sud-africains et des militants européens de la lutte contre l'apartheid. Et à partir de là, ils ont dit, voilà le modèle de la lutte que nous devons mener, c'est-à-dire une campagne internationale s'appuyant sur la société civile, non violente, amené à remettre en cause le régime que fait subir Israël à tous les Palestiniens, que ce soit les Palestiniens réfugiés qui n'ont pas le droit d'entrer chez eux, les Palestiniens d'Israël ou ceux des territoires occupés.
Et c'est peut-être aussi, il faut peut-être le souligner, en s'inspirant de ce qui a été développé en direction du régime d'apartheid d'Afrique du Sud, certainement.
Absolument, absolument.
Ouais, donc, effectivement, donc il y a la mobilisation. Disons des sympathisants de la cause palestinienne, de ceux qui veulent qu'on rende justice au peuple palestinien qui se trouve dans une situation tragique depuis près de 60 ans. Mais il y a aussi des luttes politiques très intenses qui se sont déroulées autour de cette initiative du BDS. Et ici en France, on a même assisté à un certain nombre d'interpellations de militants qui avaient participé à cette campagne de solidarité. C'est l'expression d'une solidarité avec les Palestiniens. Donc, je ne sais pas maintenant, avec l'arrivée des socialistes, il y a eu même des textes ou des instructions réglementaires qui ont été à l'époque envoyés aux institutions de l'État pour, prendre des mesures vis-à-vis de cette mobilisation.
Alors, précision utile, la France est avec Israël, puisque Israël a fait passer une loi contre les militants BDS israéliens. La France est le seul pays au monde dans lequel on poursuit des gens pour la participation à cette campagne. C'est important de le préciser, c'est-à-dire aucun autre pays européen, ni aux États-Unis, ni au Canada, etc. etc. Bon, on peut les empêcher d'agir, mais jamais au niveau judiciaire. La France est le seul pays, et évidemment, tout ceci a été fait sur la demande, à l'initiative d'organisations françaises sionistes, que l'on connaît. L'arrivée des socialistes au pouvoir n'y a rigoureusement rien changé. La fameuse circulaire Alliot-Marie n'a pas été abolie, malgré plusieurs interpellations Christiane Taubira. Rien n'a changé. Ce qui change, en revanche, peut-être, c'est que au bout du compte, à l'heure actuelle, au moins la moitié, sinon la majorité de ces interpellations ont abouti à des relax. Et pour ce qui est le plus proche de nous, puisque nous avons un de nos camarades qui est toulousain et qui a été qui a été poursuivi dans le cadre d'une de ces... Je pense d'ailleurs qu'il était venu ici en parler. Qui a été poursuivi dans le cadre d'une de ces interpellations. Il a été relaxé en première instance et il vient d'être relaxé en appel. Donc l'affaire est terminée pour eux. Voilà.
Mais moi, j'ai lu en préparant cette émission que en Cisjordanie, l'autorité palestinienne avait fait arrêter 4 jeunes Palestiniens qui s'étaient mobilisés contre un groupe musical indonésien qui se produisait en Israël. Et donc, ils ont été tout simplement arrêtés par la police de l'autorité palestinienne et il y a une mobilisation pour les libérer. C'est pour dire que...
Hein, oui, ça c'est nouveau et inquiétant. Lorsque nous avions rencontré, nous, Omar Barghouti, qui est un des dirigeants de la campagne BDS, qu'on l'avait rencontré à Ramallah il y a quelques mois, et qu'on lui avait posé la question, il nous avait répondu, en substance, l'autorité palestinienne nous fout une paix royale, parce que nous sommes un mouvement qui est appuyé par toute la société civile palestinienne, par toutes les organisations, donc les choses se passent bien. Manifestement, c'est plus tout à fait le cas. Et d'ailleurs, il y a eu effectivement des protestations contre ce que tu viens contre ce que tu viens de dire. Voilà. Ceci dit, la campagne BDS progresse un peu partout. Il y a eu une importante société savante américaine qui a décidé de soutenir la campagne BDS à la fin de l'an dernier. À la suite de ça, il y a 2 universités qui se sont affiliées, mais dans les mois qui ont suivi, le nombre de leurs membres a augmenté de moitié. Donc, c'est dire que c'était. Il y a eu la campagne contre SodaStream qui a fait beaucoup parler d'elle récemment. Une information ces derniers jours qui n'a pas été, je pense, répercutée dans les médias français, c'est que Bill Gates a retiré complètement ses participations dans la société de sécurité G4S, qui est une grande boîte de sécurité mondiale, G4S, sur lequel il y a campagne de la BDS mène campagne pour sa participation à la sécurité dans les prisons israéliennes dans les territoires occupés. Et donc, on en a peu parlé en France parce que G4S avait revendu sa filiale il y a 3 ou 4 ans. Donc la campagne n'est pas vraiment menée en France, elle est menée dans bien d'autres pays. Et la presse britannique que moi j'ai consultée, qui a parlé donc de cette décision de Bill Gates, a cité la campagne contre G4S dans le cadre de la campagne BDS comme une des raisons probable, bien sûr, je pense que Bill Gates ne l'a pas dit, mais une des raisons probables de cette décision. Donc, il y a des avancées continuelles de cette campagne.
Et voilà une information nous parvenir. Je ne sais pas quelle est sa véracité, sa pertinence. En tous les cas, l'information qui nous est arrivée par le biais d'Info Palestine dit que 10 000 étudiants de l'Université de Floride du Sud appellent à désinvestir des entreprises liées à l'occupation. Depuis des mois, des membres de la section des étudiants pour la justice en Palestine de cette université ont collecté des signatures appelant au désinvestissement d'entreprises telles que Carter Pilar, qui vend des bulldozers aux forces armées israéliennes, et G4S, une société privée,
alors celle que je viens de citer,
qui gère des prisons dans lesquelles sont enfermés des Palestiniens. Le groupe a dit que la pétition qui intervient après une tentative contrecarrée de soumettre la question à un référendum étudiant est la plus importante jamais signée dans les universités de Floride. Donc ça corrobore ce que tu exposais à l'instant.
Voilà, mais ce n'est pas par contre la première dans une université américaine. Il y a d'assez nombreuses universités.
Non, en Floride. Hein, oui, oui. C'est localisé.
Alors, une petite information qui nous concerne directement au niveau de la campagne BDS. Un autre volet de la campagne BDS, en quelque sorte, vient de s'ouvrir depuis 2 mois. Et elle prendra la forme ce samedi dans plusieurs villes, donc j'espère qu'il y aura quelque chose à Toulouse, d'une interpellation en quelque sorte de Carrefour qui vend des voyages, c'est pas Carrefour qui les élabore, hein, mais Carrefour vend des voyages des opérateurs israéliens. Et certains de ces voyages, même, je dirais même la majorité de ces voyages, ont une partie dans les territoires occupés, y compris des séjours dans des colonies de la vallée du Jourdain. Donc, donc c'est absolument scandaleux que ces choses-là soient vendues. Bon,
et justement, il y a un point très important sur lequel il faut peut-être revenir, c'est-à-dire que cette campagne de boycott touche surtout les entreprises ou les partenaires économiques qui s'installent sur des territoires qui sont sous occupation.
Alors oui, pour te répondre et pour répondre à l'ensemble des auditeurs, la campagne BDS ne cible pas particulièrement les entreprises qui sont impliquées dans l'occupation. Il est simplement plus, je dirais, facile d'expliquer l'illégalité, puisque ça, c'est une illégalité par rapport au droit international de ces entreprises-là que pour les autres. Mais quand on regarde la situation à l'intérieur d'Israël, on s'aperçoit qu'en fait, toutes les entreprises israéliennes sont impliquées dans la colonisation, de près ou de loin. Alors, elles n'ont pas nécessairement des centres de production, etc., etc., dans les territoires occupés, mais toute l'économie israélienne pénètre les territoires occupés, sans aucune exception. Donc, pour ce qui est du boycott des entreprises, il n'est pas limité aux...
Je parle des entreprises étrangères.
Oui, alors ça par contre...
Elles peuvent intervenir dans ce qui est reconnu comme étant l'État d'Israël, mais...
Tu as raison que les initiatives dans le volet désinvestissement de la campagne BDS sont prioritairement pour les entreprises, par exemple... Qui collabore indirectement à la colonisation.
Et qui renforce l'occupation.
Par exemple, en France, Orange, qui a un partenariat avec une entreprise israélienne qui s'appelle Partner Communication. D'ailleurs, c'est eux qui utilisent le logo et le réseau nommé Orange en Israël. Et Partner Communication installe le réseau dans les territoires occupés. Alors que Israël fait par la même occasion tout son possible pour empêcher le développement des réseaux palestiniens. Bon, voilà, donc ça c'est un exemple. Tu as bien fait de le spécifier. Oui.
Le mouvement, enfin le BDS, on peut considérer que maintenant c'est un mouvement. Est-ce qu'il a des articulations, des coordinations? Comment ça se passe concrètement?
Concrètement, ce n'est pas une organisation, c'est-à-dire on n'a pas créé une organisation BDS, c'est une campagne qui est menée donc par des volontaires et qui est soutenue par un ensemble d'organisations.
Bon, en France, qui existe déjà...
En France, il y a un peu plus de 50 organisations nationales qui sont affiliées à la campagne BDS, plus des comités locaux, par exemple chez nous à Toulouse. Le nombre augmente régulièrement, donc... ça peut être des partis. Le parti de gauche s'y est affilié il y a quelques mois. Ça peut être des syndicats. Bon, la CNT, Solidaire, par exemple, qui en font partie déjà presque depuis le début. Ça peut être d'autres organisations. ATTAC, y est depuis à peu près un an. Je donne ces exemples-là parce qu'ils me viennent à l'esprit, mais bon, je ne peux pas les citer tous. Ça donne une certaine souplesse dans le développement, parce que suivant les militants, suivant les lieux, suivant leurs intérêts, tel ou tel aspect peut être creusé et développé par exemple, bon, le boycott sportif, qui n'existait absolument pas, a été pris à l'initiative de militants, généralement des militants de province, qui simplement s'intéressaient au foot et choses de ce genre-là. Ils ont dit, bon voilà, il faut faire quelque chose par rapport à ça.
Et justement, je voulais en venir au volet, par exemple, culturel et scientifique.
Oui.
Il y a également une action sur ce terrain.
Totalement, et c'est même probablement c'est certainement un des volets les plus importants. Parce que, bon, on peut dire en Afrique du Sud, le boycott culturel, c'était pas si important que ça, parce que l'Afrique du Sud, c'était bon, un producteur de matières premières, de diamants, de produits agricoles, etc. Mais je veux dire, l'Afrique du Sud de l'apartheid, je parle de cette Afrique du Sud là, n'avait pas de prétention culturelle énorme, alors que Israël en a et fait toute une propagande pour se présenter comme la seule démocratie du Moyen-Orient, porteur d'une culture millénaire, etc.
Et
cette propagande, je parlais tout à l'heure du tourisme, c'en est un exemple.
Oui, j'ai même lu que dans cette publicité qui était développée en direction des publics, on reprenait des lieux qui appartenaient, historiquement aux Palestiniens, et on les mettait comme étant des lieux situés dans l'État d'Israël.
Oui, l'exemple que l'on a un petit peu dégoté en regardant ces circuits touristiques, c'est celui du le lieu, je dirais, traditionnel, parce qu'il n'y a pas de preuve historique, du baptême de Jésus. Depuis des siècles et des siècles et des siècles, je ne sais pas quand ça remonte, était fixé au bord du Jourdain, à hauteur de Jéricho, c'est-à-dire donc dans la vallée du Jourdain, dans les territoires palestiniens occupés. Et après 1967, ce lieu a été fermé par l'armée israélienne, et les Israéliens ont inventé ou créé un autre, qui est un petit peu juste après le débouché du lac de Tibériade, c'est-à-dire beaucoup plus au nord, mais qui lui est complètement à l'intérieur d'Israël, et c'est ça qu'ils exploitent touristiquement, en y emmenant les touristes se faire des bains baptismaux, etc. etc. Donc c'est complètement bidon, et tout le monde le sait, en plus de ça, sauf les touristes eux-mêmes, d'ailleurs. Mais bon.
On va peut-être marquer une transition musicale, et on retrouve notre invité dans un petit moment.
كتب كتبه تاريخ الحرب قبل ما الحرب تبدا واحنا كنا هنا جنود بالشطرنج وهو بيحركنا نا 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 وانا واحد من الجنود اللي راه ياكل واحد من الملوك لما تفكر اني مفكر قلب جهنم لا 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 جنة عدم لا لا Find me a solution. ودنا إلهم بيذكرنا بأبارتاين ونيلسون مانديلا قال إنه ورد جند مش راح يساعدنا فعلى كل أهل الحب والسلام كيف بدكم تعايش لما ولا واحد عايش بهو بنفعش أخذ قرار كيف تكون جننتي وأنا أهلي ساتني مش راجع أرضي اللي أبني فيها الظهر
It takes a revolution.
شامي دي جاي قد فراشي بدي اكبر فراشي ليوسع كل عيلتي كسر طول اجري ولساتني ماشي سكر طول عيني ولساتني شايف والخوف من القدر والخوف ملجا من خطر والخوف من القدر والخوف ملجا من خطر واحد اللي يحارب على شان اي زي انسان بتشتت بس ولا اشي هدي هذا الاشي بس بسقي شجر التمرد ولما تطلع عليها بتشوف طريق حرية اللي فيها راح نطلع كتير جبال اللي واحنا عليهم تشوف وراهم كم 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 من جبال عشان نغير وضع لازم عشان يكون انقلاب عشان يكون انقلاب لازم انقاطع لازم انقاطع نبني جيل جديد انقلاب نبني جيل جديد انقلاب نبني جيل جديد انقلاب عشان نغير وضع
Voilà, retour donc au studio. Nous sommes avec Jean-Pierre Boucher pour évoquer la situation en Palestine. Alors, après avoir évoqué le premier axe, à savoir la campagne BDS, nous allons essayer maintenant de nous intéresser à la situation des prisonniers palestiniens. Alors, leur nombre est important. Et il y a un mouvement de grève de la faim qui approche les 50 jours de grève. Et on constate que ni dans les médias, disons, internationaux, ni dans les médias du monde arabe, régionaux, il n'y a une information, disons, de qualité sur ce mouvement des prisonniers palestiniens qui sont, c'est un mouvement de prisonniers qui sont détenus sans charge et sans procès. Donc Israël détient 189 Palestiniens en détention administrative et 125 d'entre eux sont en grève de la faim depuis le 24 avril et puis le 6 juin, plus de 40 jours après le début de la grève et après que 70 prisonniers aient été transférés à l'hôpital Ban Ki-moon, le secrétaire général a condamné leur détention et pressé les autorités israéliennes de relâcher les prisonniers ou de les inculper parce qu'ils sont détenus sans inculpation précise. La déclaration du secrétaire général a suivi celle du comité spécial de l'ONU d'investigation des pratiques israéliennes violant les droits humains des Palestiniens et d'autres Arabes des territoires occupés qui enjoignaient Israël à prendre en considération les demandes des Palestiniens. Et puis, donc, on a commencé en Israël à discuter de la possibilité donc, de prendre une loi qui autoriserait donc, le système pénitentiaire à faire manger de force les grévistes de la faim. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dossier ?
D'abord, rappeler ce que c'est que la détention administrative, c'est-à-dire c'est la possibilité... Il s'agissait d'une loi des Britanniques, donc elle remonte avant la création d'Israël, mais les Israéliens l'ont conservée. Donc c'est une méthode qui consiste à emprisonner...
Qu'ils ont dû dénoncer à l'époque, puisqu'elle a plus ou moins été appliquée à leur encontre.
Elle leur a été appliquée, effectivement, comme elle a été encore plus, bien plus appliquée aux Palestiniens révoltés à l'époque. Donc ça permet de garder en détention sans motif signalé et sans jugement, sans procès ni jugement, par période de 6 mois renouvelable indéfiniment des prisonniers. Bien entendu, c'est un énorme moyen c'est essentiellement un énorme moyen de chantage vis-à-vis des prisonniers, de leurs familles, leurs proches, etc. Donc, il est peu vraisemblable que les Israéliens renoncent à l'utiliser prochainement. Ce que tu as cité, c'est-à-dire
tous les cas, la Knesset israélienne est même en train de discuter d'une loi qui permettrait de nourrir de force les prisonniers palestiniens en grève. Le projet de loi est publiquement contesté par la principale association israélienne de médecins pour qui cette pratique est assimilable à de la torture. Mais le gouvernement israélien se sent assez tranquille pour essayer de faire passer une nouvelle loi qui interdirait de libérer des prisonniers palestiniens sans l'aval d'un tribunal israélien. Elle s'appliquerait aux futurs prisonniers condamnés à la prison à vie sans libération conditionnelle. Alors c'est là le...
Il y a eu quelques actions pour soutenir les prisonniers palestiniens en France, pas suffisamment, ça c'est clair. Une des raisons pour laquelle on n'en parle pas beaucoup, outre le fait que les Palestiniens, je veux dire, c'est pas la première grève de la faim que les Palestiniens font. La dernière, je crois, ça doit remonter à 2012. Et à cette époque-là, un des Palestiniens, ce footballeur, avait fait la grève de la faim jusqu'à 82 ou 83 jours, je ne sais pas exactement. Donc c'est une méthode de lutte utilisée par les prisonniers palestiniens depuis longtemps. Et je pense que malheureusement, la situation à l'heure actuelle, au niveau de l'ensemble du Moyen-Orient, je pense en particulier à la Syrie, puis maintenant en Irak, fait que cette actualité-là n'est pas au premier plan.
Voilà. Alors, en tous les cas, les Palestiniens de Cisjordanie ont fait une grève générale pour dénoncer cela, une grève qui a eu lieu le 8 juin. Des centaines de citoyens ont participé à une veillée à la bougie. Des manifestations de solidarité avec les prisonniers ont été organisées dans plusieurs pays, mais elles n'ont pas attiré beaucoup l'attention. Et les médias sociaux ont choisi de parler de d'autres priorités pour eux.
Oui, c'est important d'insister que la question...
C'est Adnan Khader dont tu parlais à l'instant, qui avait fait grève de la faim et qui avait contraint Israël à renoncer au renouvellement des ordres de détention administrative. Mais cette fois-ci, il n'y a
Mahmoud,
pas de...
Et Mahmoud Sarsak, le footballeur aussi.
Oui.
C'est important de le dire parce que partout en Palestine, la question des prisonniers est une question, publique et centrale, avec énormément de comités, un peu dans toutes les villes de quelque importance que ce soit, pour non seulement le soutien des prisonniers, mais aussi le soutien des familles de prisonniers, parce que bien souvent, l'emprisonnement des hommes pose de très graves problèmes sociaux pour leurs familles, etc. Donc il y a une énorme solidarité autour de cette question-là.
Alors,
dont on n'a pas idée, nous, en France.
Exactement, on ne prend pas toute la mesure Mais il y a eu également, c'est aussi un sujet de controverse et disons de confrontation politique en Israël sur la question de la libération de certains détenus. C'est à chaque fois, disons, on présente ça comme, disons, un geste de mansuétude, d'ouverture d'Israël qui tend la main aux Palestiniens. Et maintenant, je crois que, puisque le processus de paix ou de négociation est vraiment en panne, Israël s'apprête à faire voter à la Knesset une loi interdisant toute libération de prisonniers politiques. Enfin, politique pour eux, c'est pas des politiques, c'est des terroristes.
Oui. Une des causes immédiates de l'échec des négociations qui a été donnée, c'est le fait qu'il était prévu, en tout et pour tout, comme signe de bonne volonté des Israéliens, qu'ils procèdent à 4 vagues de libération de prisonniers, et ils ont refusé la quatrième. Bon, c'était à chaque fois des groupes de 20, 20, 25, 30 prisonniers, pas plus. Bien évidemment, les négociations ont échoué pour des raisons bien autres que celles-ci. On va y revenir.
Nous allons aborder ça tout à l'heure.
Voilà.
Donc ce qu'on pouvait dire. Maintenant, nous allons passer justement à la naissance de ce gouvernement de consensus national qui vient donc de voir le jour après le rapprochement entre l'autorité palestinienne incarnée par Mahmoud Abbas et Hamas. Alors moi j'ai sous les yeux, disons, le commentaire ou la chronique d'un journaliste d'origine palestinienne connue dans le monde arabe et même à l'échelle internationale, qui parle d'un mariage contraint et forcé. Donc il n'y a aucun doute, dit-il, que le siège imposé au mouvement au cours de l'année écoulée, depuis le coup d'état militaire contre le président égyptien élu Mohamed Morsi, continuant, il parle du mouvement Hamas, a placé le Hamas dans une terrible impasse en raison de la fermeture quasi permanente du passage de Rafah, de la destruction de plus de 1000 tunnels qui étaient une bouée de sauvetage pour l'économie de Gaza, et en raison de la campagne médiatique égyptienne contre lui. Donc voilà à peu près le point de vue de cet observateur de la situation politique en Palestine, entre les Palestiniens. Donc mariage forcé et contraint, c'est les nécessités aussi de l'heure qui font que, comme tu viens de dire, que il n'y a plus de processus de négociation.
Y en a-t-il eu jamais? Ça, c'est la question qu'on peut poser.
Enfin, pour les Américains, oui.
Non, je pense que je me demande si les Américains n'ont pas voulu faire la preuve. Finalement, que tout ceci ne menait à rien. Je ne suis pas absolument convaincu de la naïveté des négociateurs américains, parce que avant cette série-là, il y a eu Annapolis, et avant Annapolis, il y en a eu d'autres, et puis il y a eu. Bon. Donc, je crois que. Ils ont voulu tester une dernière possibilité. Et maintenant, il est totalement clair qu'après l'échec de ces négociations-ci, à mon avis, il est clair que personne n'en proposera à nouveau. Donc on est en train, à l'heure actuelle, de rentrer dans une nouvelle période. Une période qui est la fin, finalement, d'Oslo.
Et donc, pour aboutir à quoi?
Alors, aboutir à quoi? Ça, c'est la...
C'est l'inconnu.
C'est la bonne question et c'est l'inconnu. Si l'autorité palestinienne... en tant que telle, n'a pas la possibilité de penser qu'il va y avoir un accord qui sera abouti, qui viendra un jour avec Israël, son gros souci à l'heure actuelle, c'est simplement de se maintenir en tant que tel. D'accord ? Et elle doit rebondir de différentes façons. Une façon, et ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais je voudrais insister là-dessus, c'est le fait que dès le lendemain donc, de la fin des négociations, la fin attendue presque pratiquement par tout le monde, l'OLP, hein, pour l'autorité palestinienne, a demandé, a proposé plus exactement, l'adhésion à une série de conventions internationales auxquelles souscrivent beaucoup d'États et qui concernent les droits de l'homme et bien d'autres questions. Alors ça a été en partie du fait que beaucoup de juristes palestiniens depuis un an mènent campagne pour que ce déficit d'implication des Palestiniens vis-à-vis des conventions internationales soit corrigé. Il y a eu une conférence avec une participation internationale à l'université Birzeit en mai 2013 qui a fait un énorme travail avec des conclusions, je pourrais t'en laisser un exemplaire ici. Parmi lesquels.
Parce qu'il y a eu, il faut rappeler qu'il y a eu reconnaissance de l'État de Palestine comme un État associé.
Oui, c'est ça. Oui. Hein? Donc c'est.
Ça c'est, quand même c'est fait intervenir une nouvelle donne.
C'est une des conséquences. C'est effectivement une nouvelle donne et c'est à peu près la seule sur laquelle, à l'heure actuelle, l'autorité palestinienne peut s'appuyer et chercher à développer. Dans ce sens-là. Ces demandes d'adhésion sont en cours, je ne sais pas ce que ça va donner. L'autre est effectivement de répondre à la demande, parce que c'est une demande unanime des Palestiniens, d'en finir avec la coupure entre Hamas et Fatah. Et je pense que c'est bien plus qu'une coupure politique, c'est en fait une coupure qui consiste de la part des Israéliens à dire il n'y a pas un territoire occupé palestinien, il y en a deux, d'accord, et donc on peut traiter on a complètement mis la bande de Gaza entourée de murs de barbelés, etc., et on n'y rentre plus, on n'en sort plus, et en plus de ça c'est une non-entité, d'accord. Et là le point positif, au moins pour les Gazaouis et même pour Hamas, c'est de faire sortir la bande de Gaza de cette situation d'exception en leur raccrochant en quelque sorte au train palestinien. Ce que tu as cité tout à l'heure comme raison immédiate est parfaitement juste, c'est-à-dire que Hamas est dans une situation terrible due à la prise de pouvoir militaire égyptienne et aux conséquences, et aussi au fait que Hamas s'est coupé de certain nombre de ses alliés, en particulier en retirant son siège de Damas il y a déjà plus de 2 ans de ça. Bon, et donc un isolement, dans le monde arabe.
Et
assez,
puis, et
assez
puis donc la crédibilité de Hamas, en tous les cas, s'en ressent en matière de gestion quotidienne des besoins de la population. Donc il fallait trouver nécessité nécessité à la fois économique, sociale, culturelle, mais aussi un impératif politique de l'Union.
Il faut voir quand même comment les choses vont se développer, parce que beaucoup de choses n'ont pas été réglées, ou elles ont été envisagées.
Oui, par exemple, le gouvernement qui a été mis en place, les quatre ministres en provenance de Gaza, qui sont des indépendants, pas nécessairement des militants de Hamas. Ils n'ont pas été autorisés à se rendre à Ramallah pour la cérémonie de prestation de serment. La situation est encore très...
Oui. Mais un point peut-être encore plus important, c'est que après la prise de pouvoir par Hamas, c'était en 2007, sur la bande de Gaza, l'administration dépendante de l'autorité palestinienne, à peu près 70 000 fonctionnaires étaient restés, et elle avait pour consigne de ne pas aider, c'est-à-dire de ne pas bosser, quoi. Bon. Et donc, Hamas avait mis en place une administration avec 50 000 personnes. Que deviendront ces 50 000 personnes demain ? Ça n'a même pas été discuté, ça n'a même pas été négocié.
Si, Hamas a demandé à ce qu'il soit... Parce que Hamas n'arrive plus à payer ses fonctionnaires. Et donc, l'une des premières revendications, juste après l'installation du nouveau gouvernement, c'était de demander à l'autorité palestinienne de payer les salaires. Il y a aussi... Le problème, disons, de l'éducation, de la santé, la situation n'est pas... Elle est terrible, oui. dans la bande de Gaza.
Oui, absolument terrible, oui. Hein? Bon, et le point aussi, pour revenir à cette question du gouvernement d'union, c'est... On est quand même amené à poser la question. Bon, c'est bien que ce soit un gouvernement d'union plutôt que deux entités séparées, mais gouvernement d'union de quoi ? Ce gouvernement ne gouverne finalement pas grand-chose, pas la moindre autorité sur 60% de la Cisjordanie, qui, d'après les accords d'Oslo, sous son contrôle à la fois militaire et civil israélien. Autrement dit, donc la colonisation s'y poursuit tranquillement.
Justement, c'est un aspect très important. Durant toutes ces années où on négociait prétendument, la colonisation s'étendait, oui, jour après jour.
Absolument.
Et si bien qu'alors... la réaction d'autorité palestinienne a été pratiquement impuissante.
Oui, impuissance totale. Je veux dire que l'autorité palestinienne ne pouvait que se taire vis-à-vis de tout ce qui se passait. La première fois que je suis allé là-bas en 2002, je suis allé dans un village, donc toujours dans la zone C, où 15 jours avant, la citerne qui avait été installée avec l'adduction d'eau pour les serres et tout ça, avec des financements japonais, italiens, etc., avait été détruite par l'armée. Et les agriculteurs disaient, mais l'autorité palestinienne, elle ne fait rien et elle ne dit rien par rapport à ça, tout simplement parce que d'après les accords d'Oslo, elle n'a rien à faire, elle n'a rien à dire. Hein? Donc c'est terrible de penser que ça se produit à très grande échelle. Le résultat, 20 ans après Oslo, c'est que dans cette zone C,
20 ans après,
hein, puisque les accords d'Oslo, c'est 1994, la signature formelle. Bon, il y a eu des signatures complémentaires, mais c'est 1994. 20 ans après...
Il y a plus de territoires occupés qu'il y a 20 ans.
Oui, et dans cette zone C, il y a plus de colons que de Palestiniens.
On va faire une pause musicale et on repartira après.
Très bien.
D'accord.
Et pour pas ennuyer trop nos auditeurs quand même, pour ceux qui ça n'intéresse pas, ils auront coupé.
كلام شراري هب نار بهلوب ثوار أحرار
أعطيني ميكروفون
وأنا أعطيك انخلاب مفيش انسحاب هدفنا زي الأوتاد بطرار أملنا زي ناطحات سحاب ترفع راسها بيجي حد يطلع هلا قمنا كلنا حضر إيدي سرد أحنا مع الزمن شفنا القوة فينا جوا مين بدي قرب لينا هنا كلمات اللي منا كله يغرق من قطة كف الورا يسرح من حومي إيدي الألم يعرق حبره يبدأ ينزل ولا عمره يفرح أنا حامي أمجد هواس وأنا محرق إيه بي سي دي بيدي الألم يحكي عربي الورقة تسمع عربي الألم هو فأس الورقة صارت أرضي
اصرع
الفكرة براسي تقعد فكرة حامية ضلها تخبط تضرب حامية
بخرة
سما كل جال اللي تجي بعدي تحصل
دا دم دا 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 دم دا دم دا 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 د
ولا بدك اني علي اوتار انا دافع الرب لمستوى تاني كل واحد سمه حب وحكى
مش
انا محترف مختلف مرتجف ليش الوحيد المرتجف في طبلة الدان انا انسان ما انسان يضرب فان دام هو كان زمان يوم الزمن للدان
عظيم سلام
لمحمود جريري من الدام اللي فيها كمان تنين غيري مع بعض نرتب نرتب كلام اللي يكون عينين مفتحه لغيري دينين سامعه كل حركه ايدين كاتبه كل حركه اجرين ثابته وهي ماشيه وهي رامحه للهدف طامحه والهدف معنى اللي يكون معنى بكل الاغاني يعني لما هز الراس من برا هزه برضه من جوا بكلامي اللي يعكس واقع اللي نابع من ظلم دايما طامع وانا هون قاعد شاهد وبالالم دايما طابع
لا دم لا دم لا دم لا دم لا دم لا دم
أنا متأكد إنك أنت فكرت إنه الديسك عماله نطنت بس لا 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 هذا تقلي أنا
سيحة يا
لا مين 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 الدم الشيء الذي يدوم بوم قوم اسمعنا وعن الباقي زوم ألبوم دا انتفاضة
كلامنا حجارة
البحر كله راب وأنا
جزيرة رجع
وراح يجي يوم اللي تشوفوها تزوروها تسكنوها ما تسيبوها تحرطوا أبوها وبعد الديسك جدي مطنت واخر سطر سلامات مني سهيل النفهر
من الأول علشان الناصر
Voilà encore 10 minutes avec Jean-Pierre Boucher autour de la Palestine. Donc nous évoquions l'avènement de ce gouvernement de consensus national qui regroupe donc l'autorité palestinienne, Fatah en tant que parti, et Hamas. Mais en fait, Hamas a désigné des indépendants, qui, donc des ministres qui ne sont pas nécessairement affiliés de façon organique à Hamas. Et malgré cela, Israël, il faut le rappeler, ou du moins le gouvernement israélien, a lancé une véritable... alerte, disons que c'est un gouvernement qui comprend des terroristes et donc pour Israël, il est tout à fait impossible de discuter politiquement, alors que déjà le processus de négociation et de discussion entre, disons, l'autorité palestinienne et le gouvernement israélien était au point mort, donc le prétexte arrive bien tard.
Mais Majid, il est quand même utile de souligner à propos donc, de la création de ce gouvernement d'union que, alors que Hamas est répertorié par les États-Unis, avec tous les pays qui suivent, comme une organisation terroriste, la création de ce gouvernement d'union n'a pas entraîné comme réaction de dire... de la part ni des Américains ni des Européens, de dire « nous cessons toute relation avec ce gouvernement ». Ce qui indique quand même que ça aurait été inimaginable il y a 4 ou 5 ans.
Exactement. Hein.
Ce qui signifie, à mon avis, que les plus isolés dans cette histoire-là deviennent de plus en plus les Israéliens.
Et le gouvernement israélien n'a pas manqué de manifester,
son
mécontentement vis-à-vis des États-Unis, mettant en relief le fait qu'il ne s'oppose pas à cette introduction de Hamas dans le jeu, disons, institutionnel, alors que au départ, Hamas était apparemment isolé, et aujourd'hui une nouvelle dynamique.
Oui. Et alors, je pense que l'élection, hein, puisque c'est une élection du nouveau président de la République.
Oui. Parce qu'il va y avoir des élections très bientôt, législatives.
Oui, non, je parle de l'élection du président, enfin, c'est pas la nouvelle République, mais du nouveau président d'Israël.
Ah oui, oui, il a été déjà désigné.
Qui s'appelle Reuven Rivlin.
Qui est un dur, paraît-il.
Qui a toujours été opposé à la création d'un État palestinien, donc qui, par la majorité de la Knesset, ne va certainement pas non plus contribuer à améliorer l'image d'Israël. Non pas que le précédent président Shimon Peres soit, contrairement à ce qui a été dit,
une colombe,
un partenaire de la paix ou d'un État palestinien, mais en tout cas, c'était le rôle qui s'était un peu attribué depuis très très longtemps au niveau international, avec la complicité de beaucoup de gens à l'intérieur et à l'extérieur d'Israël. Et cette figure-là, en tout cas, n'existe plus. Donc on est de plus en plus dans l'identification d'Israël assez jusqu'au boutiste, même si en fait le projet de ne pas créer d'État palestinien, il est aussi vieux, il est bien plus vieux même que les négociations d'Oslo. Bon, voilà, donc c'est juste pour dire que la question de... Ils sont décidés à ne plus tenir compte à l'heure actuelle de la question de l'image, et par contre de ne reposer que sur la question du fait de dire nous sommes utiles, nous sommes indispensables, et par conséquent il faudra faire avec nous. Je pense en particulier au rôle croissant d'Israël dans le système militaire international, quoi. Bon, Israël étant devenu maintenant le cinquième ou sixième, ça dépend des chiffres que l'on prend en considération, exportateur d'armes au monde, et avec un certain nombre d'armements ou de matériel sécuritaire très sophistiqué. Ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, où ils reposaient plus sur la technologie étrangère. Maintenant, ils sont exportateurs de non seulement de matériel, mais de technologie. Bon, donc je crois que voilà, on est dans une nouvelle période de ce point de vue-là, et je pense que la campagne BDS, hein, pour revenir à la question de la campagne BDS, peut complètement s'appuyer là-dessus. Alors je signale donc aux auditeurs qu'il y a le film qui est sorti l'an dernier qui s'appelle The Lab. Ce qui veut dire le laboratoire, qui parle effectivement donc du complexe militaro-industriel israélien, qui vient d'être sous-titré en français. Donc je pense qu'il est disponible sur YouTube, faut le chercher. Donc ça vient juste de paraître ces trois derniers jours. Voilà.
Je crois qu'on va conclure sur ces deux points, c'est-à-dire une nouvelle dynamique, surtout marquée par, la position des États-Unis, qui ne s'est pas opposée cette fois-ci de façon radicale à la présence de Hamas dans un gouvernement, de réconciliation nationale entre Palestiniens. Et puis, bien sûr, les initiatives qui sont prises dans le cadre de la campagne BDS. Et donc, comme tu l'as résumé, on peut parler de l'ouverture ou du début de l'avènement d'une nouvelle période à analyser, à suivre avec beaucoup de finesse. Parce que, les apparences sont souvent trompeuses.
Voilà. Voilà donc, je voudrais juste signaler pour les auditeurs qui nous auraient écoutés jusqu'au bout sur Canal
Sud. Il y en a,
que s'ils veulent avoir plus d'informations sur la campagne BDS et les activités sur Toulouse, ils peuvent, le plus simple, c'est qu'ils envoient un mail, je vais donner l'adresse, c'est en un seul mot, Stop Apartheid. D'accord.
Vous étiez donc à la fête de l'UMA ce
voilà,
week-end.
Voilà, stopapartheid@yahoo.fr.
D'accord, voilà. On le reprendra peut-être dans nos prochaines éditions. Et donc Jean-Claude Boucher, merci. Nous avons, du moins en ce qui me concerne, je le reconnais, improvisé cette émission. Les prochaines nous réuniront plusieurs personnes autour de cette table pour avoir des points de vue
différents
et, ouverts.
Donc on se retrouve d'ici 3 semaines.
Voilà.
On se retrouve d'ici 3 semaines.
Je pense que ce sera le 2 juillet, quelque chose
voilà,
comme ça.
Voilà, on se retrouve à ce moment-là. Merci à vous, merci de votre venue, et c'est la fin du magazine.
Merci Philippe d'avoir assuré la technique jusqu'au bout.
Voilà, et à Jean-Pierre Boucher, à dans 3 semaines.
À bientôt.
À bientôt.
Et merci pour votre invitation.
Vous êtes sur Canal Sud 92.2, et c'est la fin du magazine.